partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
La langue française n'a cessé d'évoluer avec le temps, depuis des siècles, mais comment est-elle née ? Quelles ont été les étapes décisives de sa structuration, de son développement ? Nous en parlons aujourd'hui avec Jean Pruvot, linguiste, habitué de Canal Académie, puisque vous y tenez une chronique sur les mots, et que vous êtes le spécialiste en histoire de la langue. Bienvenue dans cette émission. En effet, vous êtes professeur des universités à l'université de Cergy-Pontoise, où vous enseignez la linguistique, la lexicologie et la lexicographie. Jean Pruvot, pouvez-vous nous parler tout d'abord de la genèse de notre belle langue ? Qu'est-ce qui est au berceau de notre langue française ?
Alors, le berceau était non pas avec des jumeaux, mais avec un certain nombre de beaux enfants aussi. Il s'agit en réalité d'un berceau pour toute une famille. Il faut remonter à une famille de langues qu'on a appelée la famille de langues indo-européennes. Ce qui est curieux, c'est que souvent on connaît très bien l'histoire de sa famille, mais enfin, si on doit remonter évidemment du côté de la préhistoire, on a du mal. Et pour la langue française, ce n'est que très récemment qu'on a conçu que sans doute des langues comme le latin, le grec, pas sans doute, on en est sûr d'ailleurs, l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe, le breton et le persan étaient de même famille. Et ça, on s'en est aperçu à la fin du XVIIIe. On a commencé à l'imaginer à la fin du XVIIIe et on a enquêté tout au long du XIXe siècle. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'à partir de quelques écrits en sanskrit qu'on avait retrouvés donc en Inde, avec des mots qui, en définitive, étaient très identiques aux mots des langues européennes, eh bien, il y avait peut-être une même famille. Je vais donner un exemple. On découvre par exemple en persan modar, en russe mat, en breton mam, en allemand mutter, en anglais mother, en latin mater, en français mère. Bien, c'est curieux quand même, tous ces mots qui se ressemblent. Puis si on découvre que, en reprenant dans le sens inverse maintenant, le français frère vient du latin évidemment frater, en anglais brother, en allemand bruder, en breton, mais je prononce mal sans doute le breton, breur, en russe brat, en persan baradar. Donc on s'aperçoit qu'il y a là une même famille. Alors la famille est donc large et la langue française fait partie de cette famille. Et ce sont en gros des populations qui se trouvaient, alors c'est très discuté, elles se trouvaient soit du côté de l'Oural, soit du côté de la Turquie, et qui sont petit à petit passés à l'est, puis à l'ouest, et disons de 30 km en 30 km, d'invasion en invasion, de vague en vague, sont arrivés bien, jusqu'à toute l'Europe et une partie de l'Inde. D'où cette famille indo-européenne, c'est-à-dire à la fois l'Inde, à la fois l'Europe, pas toutes les langues de l'Inde, mais un certain nombre, et presque toutes les langues de l'Europe, sauf, alors, dont le français, et on le sait, évidemment, il y a des filiations, et il y a notamment le latin et le gaulois qui sont à l'origine de notre langue, enfin, et surtout, bien sûr, le latin. Alors, non, on peut préciser davantage.
Est-ce que le français est donc plus proche du latin ou du français moderne ?
Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est que les Gaulois, évidemment, je réponds toujours un peu comme un Normand, mais on reviendra au Normand tout à l'heure, les Gaulois étaient sur notre territoire, sous ce qu'on appelle un peu facilement l'Hexagone. Ces Gaulois, c'est une vague indo-européenne, font partie de la famille indo-européenne. Une autre vague était celle d'une population qui s'est installée près du Tibre et qui était les Latins. Il se trouve que les Gaulois, qui étaient aux alentours de 15 millions de personnes, dans les meilleurs moments, les Romains étaient très peu nombreux au départ. Mais on sait qu'ils ont conquis, en partant du Tibre, de Rome, finalement l'Italie, le bassin méditerranéen et une grande partie de l'Europe, dont la France, la Gaule à l'époque, eh bien, le latin, lui, était de la même famille. Donc, entre le gaulois et le latin, il y avait des points communs. Il se trouve que comme le gaulois ne s'écrivait pas, ou presque pas, pour des raisons religieuses, on n'a pas de trace, quasiment aucune trace, du gaulois manuscrit, si on peut dire, ou des inscriptions en gaulois. On en a très très peu. Mais il est probable qu'il y ait les mêmes déclinaisons qu'en latin, et que les deux langues étaient assez proches. Et comme le gaulois ne s'écrivait pas, que le latin était langue d'administration, était langue du commerce, était langue du conquérant, bien sûr, eh bien, le gaulois, petit à petit, s'est effacé, et très vite, les Gaulois ont parlé la langue du conquérant. Et c'est ce qu'on a appelé, d'ailleurs, en linguistique, un substrat. Quand on parle du gaulois, on dit que c'est un substrat, parce que ces mots gaulois ont été envahis, ont été submergés par le latin qu'ils ont adopté. Avec un exemple extraordinaire, c'est celui par exemple des ruches et du miel. Les Gaulois appréciaient beaucoup le commerce établi par les Latins, ça les faisait vivre. Ils appréciaient aussi la manière dont ils construisaient. Il y avait une sympathie entre les deux peuples, en vérité, malgré Vercingétorix. Et on a eu, à un moment donné, le goût du commerce par les Gaulois qui, quand ils évoquent le miel, qui se vend, c'est un mot latin. On ne sait plus quel était le mot gaulois. Mais la ruche qui ne se vendait pas, c'est un mot gaulois. Donc, il est resté quelques mots gaulois dans notre langue, une centaine, un peu plus, disent d'autres, comme alouette, comme boulot, comme bruyère, comme caillou, comme chemin, comme un chêne, comme un druide, évidemment, une dune, Verdun, Châteaudun, Issoudun, on a ce mot encore dune qui est là, galet, glaise, mouton, je viens de dire ruche, tonneau, suie. Et là, on constate quelque chose d'emblée, c'est que ce substrat, il sent bon la bruyère, il sent bon le terroir, il sent bon ce qui ne se vend pas, dans le fond. Et alors, si on devait évoquer les noms de lieux, les toponymes, comme on dit, on en aurait énormément de noms de lieux gaulois, parce que c'était eux les premiers implantés, les Romains souvent l'ont adopté, même si après, évidemment, ils ont aussi eu leur propre nom de lieu sur notre territoire. Donc voilà comment il y a le gaulois, il y a le latin, tous les deux des vagues indo-européennes. Le latin conquiert la Gaule, les Romains, et à partir de là, eh bien, on parle en Gaule, le latin parlé, et à ce moment-là, on se retrouve très vite en gallo-romain, et puis ça va évoluer, on arrivera à notre langue française. Mais substrat gaulois et latin principalement. Alors, il y a d'autres invasions.
Alors justement, parlons des invasions germaniques, si vous le voulez bien.
Alors c'est une longue et belle histoire, parce que je pense que s'il y a deux peuples qui s'aiment énormément et qui sont aujourd'hui sans cesse en collusion économique, ou en tout cas qui font l'Europe en grande partie, c'est bien l'Allemagne et la France. Mais ça a été une longue histoire quand même de guerre, à commencer par les invasions germaniques. Alors j'évoquais tout à l'heure la conquête des Romains. Il se trouve qu'ils s'étaient arrêtés au Rhin, mais de l'autre côté du Rhin, il y avait les peuples germaniques. Et ces peuples germaniques qui avaient leur qualité, qui étaient de rudes soldats, avec des noms qui nous disent encore quelque chose, comme les Burgondes et les Vandales. Bon, les Vandales, un mot qui nous est resté pour désigner quelque chose d'assez brutal. Eh bien, ils voyaient bien la richesse, la civilisation, l'évolution de l'autre côté du Rhin. Et donc, de temps en temps, ils faisaient des incursions, des invasions. Et en réalité, ça a commencé 3e, 4e siècle principalement. Et un de ces Germains, et faisant partie des Francs, Francs, qui nous a donné le nom français, France, c'est Clovis, qui devient roi de France en 481, et à partir de là, bah, ces invasions germaniques vont aussi colorer la langue. Alors là, on est dans un autre cas de figure. Tout à l'heure, le gaulois était en quelque sorte étouffé, laminé, asphyxié par le latin, avec l'aval des Gaulois. Mais il a resté quelques mots, le substrat. Là, les Germains viennent en soldats, ils épousent très vite de jolies Gauloises, qui, elles, ne parlent pas la langue germanique. Donc les enfants parlent la langue maternelle. Donc c'est assez vite que les enfants de ces rois germains ou de ces soldats germains vont parler la langue de la maman et pas la langue du père. Et du coup, on ne va pas avoir, comme avec les Romains, la langue des conquérants qui s'impose, mais ce sont les conquérants qui vont adopter la langue de ceux qu'ils viennent de conquérir. Et on parle à ce moment-là de superstrat, c'est au-dessus. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils nous laissent quelques mots par-dessus, puis ils fondent tout le reste dans la langue française. Alors, des mots issus des langues germaniques, là, il y a une petite histoire un peu plaisante, enfin plaisante a posteriori. Mais au moment de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il y avait un mouvement un peu germanophobe, à mauvais escient, mais bon, ça fait partie des guerres entre les peuples. Et Dosa, qui pourtant était quelqu'un de mesuré et connaissant l'étymologie, n'avait pas hésité à dire que ce que nous avaient laissé les Allemands, les Germains, dans la langue française, était typique de leur nature brutale. Et il évoquait les mots de la guerre, alors il donnait quelques mots, la guerre, broyer, effrayer, guerre lui-même, et puis évidemment orgueil, une série de défauts, etc. Bon, c'était aller vite en besogne, parce qu'effectivement, ils nous ont bien laissé quelques mots, donc au Moyen-Âge, enfin tout début du Moyen-Âge, issu du vocabulaire de la conquête. Mais alors, si on regarde du côté des vêtements, vous avez brodé, coiffe, écharpe, étoffe, gants, moufle, poche. Bon, moufle, c'est évident que ce n'était pas du côté de l'Italie que nous serait venu le mot moufle, parce qu'il fallait des pays froids. Donc voilà des mots qu'ils ont apportés. Et puis du côté de la nourriture, des choses qu'on aime bien quand même, le flan, le mot gâteau tout simplement, gaufre, groseille, souper. Et puis du côté alors des constructions, on le repère bien dans le nord, le beffroi, les halles, une loge, une salle et les couleurs. Il se trouve que nos amis italiens, nos amis latins, étaient très sensibles dans leur langue au fait qu'une couleur soit mate ou brillante. C'est le propre sans doute du soleil, cette luminosité formidable des pays du Midi. Évidemment, on n'a pas le même soleil, pas la même luminosité en pays germanique. Et eux, les couleurs qu'ils vont nous apporter, c'est le mot blanc, qui était alba, hein, alpe, venant d'Italie, donc du latin. C'est blafard, mais c'est bleu aussi. C'est brun, c'est gris. Voilà des mots, des adjectifs qui nous ont apportés. Et puis quelques-uns qui sont des adverbes. Trop, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui disent « il est trop, elle est trop, oh, trop ceci bon, » ou « trop cela bon, ». C'est plutôt amusant, même si ce n'est pas vraiment un français formidable. Mais « trop », en fait, c'est du germanique. Ça vient de « troupeau », beaucoup. Donc « trop », »,« troupe », »,« troupeau », tout ça, c'est la même famille germanique. Et puis « guerre », c'est l'inverse, quasiment « guerre »,« peu ». Et puis « la guerre », alors « la guerre ». Alors là, peut-être pour nos auditeurs qui, comme je le fais, vont consulter le petit Larousse ou le petit Robert pour voir l'origine d'un mot, ils vont souvent être surpris de voir des mots commençant par « gueux » et c'est marqué « vient du germanique » et le mot germanique commence par « veux », « w ». Et on se demande comment on est passé de « w » à « gueux ». C'est qu'en fait, le « w », c'est vite prononcé en français « gueux ». Donc « ver », par exemple, en allemand qui veut dire « guerre »,« Wehrmacht hein, », par exemple, c'est prononcé « wer »,« guer », et de guerre à guerre, bon, il n'y avait qu'un pas à franchir. Donc voilà comment on se retrouve parfois avec eux.
Et alors, en dehors des langues germaniques, Jean Pruvot, y a-t-il d'autres emprunts ?
Oui.
On a parlé du latin, du germanique, mais il y a peut-être d'autres emprunts.
Alors, il y a d'autres emprunts. Je venais de parler de nos amis italiens. Bon, il y en a un autre du côté germanique, ce sont les Vikings. C'est très important, dans le fond, les Vikings, en deux mots quand même. Quand ils sont venus donc, sur nos côtes, sur leur drakkar, et que finalement... Roland a obtenu qu'on lui cède la Normandie, Northmen, les gens du Nord, hein, c'est de là que vient le mot Normandie, et que Charles le Simple, avec beaucoup de sagesse, lui a confié cela, lui, en tant que roi, restant le suzerain, et du même coup, Roland devenant le vassal, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, il faudrait que je révise mes classiques, qui va s'appeler, et qui est d'ailleurs du côté bâtard, on disait, Guillaume le Bâtard, pour les Anglais, pour nous Guillaume le Conquérant, c'est lui qui, là aussi, on parle plus de superstrat, on parle d'emprunt, mais qui va parler le français, ne parle déjà plus la langue des Vikings, la langue norroise, et quand il arrive en Angleterre, eh bien, on va se mettre à parler le français, l'élite de l'Angleterre parlera le français, et c'est pour ça qu'il y a tant de mots français en langue anglaise, c'est ce qu'il explique. Bon, la chose est connue, et il nous est resté quelques mots datant des Vikings. Alors évidemment, c'est le peuple de la mer. Par exemple, étrave, narval, tillac, des mots comme agrès, cinglé, G-L-E-R, une crique, évidemment drakkar, gré, auban, une. Puis quelques mots, le duvet, évidemment, là, on est dans les peuples du Nord. Et un mot aussi étonnant, le quenotte, une petite dent. Donc voilà des mots qui viennent des Vikings. Alors, on laisse tomber les germaniques, les langues germaniques, et on s'intéresse aux Italiens. Un peuple en grande avance sur la France, avec cette renaissance, et qui, 14e et 15e, vraiment a une civilisation très riche, très fine. Et quand on mène les guerres d'Italie, pour s'emparer de quelques richesses de l'autre côté des Alpes, en vérité, heureusement, il y aura Marignan 1515 qui sauve l'honneur, mais on a eu très peu de victoires, mais surtout, dans le fond, ça a été la rencontre. La rencontre avec un peuple qui était très raffiné dans les arts, et tous, aussi bien les arts littéraires que la peinture, bien entendu, mais gastronomique aussi. Et on revient avec des invités, pour aller vite, on revient avec Léonard de Vinci, et puis des gastronomes, des cuisiniers, etc. Et évidemment, très vite, la France du XVIe siècle, donc maintenant, va avoir une sorte de passion pour l'Italie, pour la langue italienne. Cette passion, elle va se concrétiser assez vite avec le goût des emprunts à l'italien de manière excessive. Puisque, évidemment, avec Marie de Médicis, on va avoir à la cour beaucoup d'Italiens et on évoquera non pas la rue mais la strada. Et on s'en est même moqué à un certain moment puisqu'on trouvait qu'on avait largement exagéré. Donc voilà comment l'Italie s'installe dans la langue française et nous donne énormément de mots y correspondant. Alors, quelques mots empruntés à la langue italienne. Brave, j'essaie de les choisir là pour montrer un peu dans quel univers. Ben, vous allez avoir évidemment spadassin, vous allez avoir sonné, on est en pleine littérature. Vous aurez pays de l'amour aussi, s'enamouracher. Pays du confort, douche, escalier, amour, la caresse. Et puis carnaval, concert. La musique tout entière va nous venir aussi d'Italie. Et ce sont à peu près 2000 mots que l'on retrouvera dans la langue française. Et j'évoquais Marie de Médicis. Avant, il faudrait parler de Catherine de Médicis, qui était régente de la France de 1560 donc à 1580. Et on sait évidemment que son cardinal italien était Mazarin. Et par conséquent, toute la cour parlait un mélange parfois de français et d'italien. Et il y a quelqu'un qui s'en est moqué. On parle du franglais aujourd'hui, à juste titre, il faut critiquer. Mais on a parlé aussi avec Henri Étienne. Alors, on pourrait pas dire du fritalien, parce qu'il n'a pas utilisé ce mot valise. Mais en 1578, il avait écrit deux dialogues du nouveau langage français italianisé, dans lequel il s'adresse au lecteur et tutti quanti. Donc, c'était à la mode, ce mot-là. Et il tourne en ridicule le français italianisé. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on a ce problème des emprunts. Et l'important, c'est peut-être la différence avec l'anglais. C'est que sur le moment, on savait qu'ils étaient italiens, ces mots. Et puis très vite, aujourd'hui, je pense que quiconque ne s'intéresse pas à l'histoire de la langue comme une sorte de dicopathe que je suis, ne peut pas repérer dans le mot façade, ou le mot sentinelle, ou le mot pilote, ou le mot artisan, ou même le mot banque, un mot italien, ils sont totalement intégrés à notre langue. Alors que c'est vrai qu'en anglais, ben, week-end, un break, bon, on sent bien encore... alors week-end est passé dans la langue, mais on sent bien là, l'accent anglais est resté.
L'influence.
Quand il est complètement intégré, comme Riding Coat qui a donné Redingote, ça passe bien. Donc c'est, je crois que le problème des emprunts, c'est leur intégration. Quand ils s'intègrent vraiment à la langue, c'est parfait. Quand ils sont encore un peu trop marqués vraiment par l'accent et qui fait qu'on entend des accents très divers sur tel ou tel mot, bon, là c'est plus délicat.
Les deux photographes de l'Académie des Beaux-Arts, Lucien Clergue et Yann Arthus-Bertrand, se livrent au micro de Canal Academy pour vous donner leur regard respectif sur l'univers de la photo. Rencontrés au musée Marmottan Monet où une exposition leur était consacrée, la Camargue natale de Lucien Clergue et le Paris vu du ciel de Yann Arthus-Bertrand sont à l'honneur. Lucien Clergue, Yann Arthus-Bertrand, regard croisé inattendu en terre impressionniste, une émission Carrefour des Arts à télécharger dès maintenant sur Canal Academy.
Est-ce qu'on pourrait évoquer quelques dates importantes dans l'histoire de la langue française, Jean Pruvot ?
Oui, alors il y en a un bon nombre.
Pas trop non plus.
Voilà,
pas
alors je vais en choisir deux parce que sinon.
Rendre difficile la tâche.
Voilà, mais... on se retrouve avec trop de dates. Je crois que la première date, c'est quand même 841, 842, 843. Alors pourquoi ces trois dates ? Parce que 841, c'est le moment où il y a une grande bataille entre deux petits-fils de Charlemagne contre le troisième, parce qu'il s'agit de partager le grand territoire qu'avait fondé Charlemagne. Alors cette bataille est une des plus sanglantes de l'époque. Elle oppose Charles d'un côté, et lui ensemble d'ailleurs, contre Lothaire, et Charles et lui s'associent. Et c'est en 842, à ce moment-là, les fameux serments de Strasbourg. C'est-à-dire que, non content d'avoir vraiment battu Lothaire, pour être sûr que celui-ci ne va pas revenir à la charge, il décide à Strasbourg, or c'est plus compliqué que ça, mais il décide à Strasbourg de prêter serment l'un avec l'autre, les troupes de l'un avec l'autre, les Allemands en langue française, les Français en langue allemande, et ces serments, c'est de se prêter assistance militaire contre Lothaire. Et évidemment, c'est la première fois qu'on a écrit en français des phrases, des serments. Donc ça commence par un acte de guerre, d'une certaine manière, ou du droit. On dit que la langue française est une langue du droit, bah, d'une certaine façon, elle le prouverait presque par sa genèse écrite. Alors pourquoi 843 ? On confond parfois les trois dates. C'est parce qu'en 843, c'est le partage de Verdun. C'est très important. Et pour faire très vite, dire simplement qu'on va partager l'Europe en trois. d'un côté, l'Europe. Alors, je ne vais pas employer les mots Francia, occidentalisme, mais l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire, en gros, en prenant comme axe le Rhône. Et c'est là que va s'installer la France. Et cette Francia va devenir la France, elle va prendre ce nom de France. Et on va avoir la chance que des rois vont se succéder sans beaucoup d'héritiers. Et par conséquent, que le pouvoir va s'affermir petit à petit et que le roi va prendre de plus en plus d'importance. C'est une grande chance, ça a donné une unité. Et ce partage de Verdun, il a été fait sur les langues. On y parlait une langue, des langues qui se rattachaient, dans le fond, à la langue française. Et puis, il y a au milieu, l'auteur. On installe l'auteur en sandwich pour bien le maîtriser. Mais il a une bande magnifique en termes politiques, parce qu'il a tout en haut Aix-la Chapelle et tout en bas Rome, donc tout ça est prestigieux. Mais il est bien pris en sandwich par, d'un côté, Charles, donc le chauve, et de l'autre côté, lui, le germanique. Et lui, le germanique, eh bien, lui, il a toute la partie qui parle, évidemment, allemand. Alors, en France, l'unité va rester, de l'autre côté, non, ça va être morcelé. Et c'est ce qui fait, si vous voulez, que morcelé, parce qu'ils ont trop d'enfants, parce qu'il faut partager, parce qu'il y a des guerres, etc. Et donc, c'est ce qui fait que la France a eu cette chance en 843. Donc, c'est une date politique importante. Et l'Europe d'aujourd'hui, dans le fond, elle est un peu des tributaires de ce partage. Alors, l'autre date, c'est François Ier. On évoquait les guerres d'Italie. François Ier, qu'on appelait un peu le père des muses, et qui a fait énormément, évidemment, pour les humanistes et pour les poètes de l'époque, qui a créé le Collège Royal, qui est devenu le Collège de France, et qui, le 10 août 1539, à Villers-Cotterêts, donc une centaine de kilomètres à peu près de Paris, va signer une ordonnance qui doit s'appliquer à tout le royaume, et dans l'article 111, il est exigé que tous les documents officiels soient rédigés en langue française. Et c'était une mesure plus large qu'on ne le croit, parce que c'était, dans le fond, imposer une langue d'État, la langue française, avec le sentiment donc, d'une nation, et en même temps faire le contrepoint à la langue latine, qui était partout, et aussi aux langues régionales, la langue d'oc notamment. Donc, si vous voulez, c'est une décision politique. Quand on dit laisser faire, etc., mais c'est avérant, la langue que nous parlons est le résultat d'une politique linguistique et continue de l'être. C'est-à-dire que, pour évoquer aujourd'hui les commissions de terminologie de l'Académie française, les règlements ou ce qu'on essaie d'imposer parfois aux radios, tout ça participe d'une politique linguistique qui permet de conserver une langue. La loi Toubon ou Tasqua auparavant, ça n'est pas du tout ridicule, ça fait partie de la défense de la langue, il faut la défendre. Il ne s'agit pas évidemment de faire ça de manière simpliste, mais une politique de la langue, ça a toujours existé.
La langue s'est beaucoup transformée, elle a passé beaucoup d'étapes. Nous en avons parlé, mais pourrait-on dire un mot pour terminer cette émission sur l'argot, sur toutes les transformations qu'elle a pu avoir ? Qu'en pensez-vous et que pouvez-vous dire à ce propos sur ce développement un petit peu inopiné, sur ces mots inventés, sur ces expressions un peu fantaisistes parfois ?
Alors c'est ce qui est tout à fait passionnant et qui continue d'alimenter ce goût qu'ont les Français, qui me réjouit pour les chroniques de langue, parce que c'est l'histoire de notre langue. Tout à l'heure, nous évoquions, puisqu'on bavardait, je ne sais plus pourquoi on a dit de quelque chose que c'était farfelu, et puis évidemment j'en ai profité pour vous dire que c'était un mot étonnant, parce que farfelu, au XVIIe siècle, nos étudiants d'ailleurs se trompent parfois, mais on est là pour les aider, ne voulait pas du tout dire original. Quand la marquise de Sévigné dit que l'infante d'Espagne est farfelu, il ne faut pas comprendre qu'elle est originale, il faut comprendre qu'elle est dodue, parce que ça voulait dire dodue, un petit peu enrobée. Et puis il y a eu un croisement avec farfadé. Et puis au XXe siècle, farfelu a pris un autre sens. Alors vraiment, les mots changent de sens. Et peut-être alors, pour aller dans cette dynamique, on pourrait dire qu'ils changent de sens par, à mon sens, quatre mécanismes principaux. La restriction de sens. Par exemple, le mot poulain, c'est tiré donc, du latin, poulus, et ça signifie le petit d'un animal. Donc en ancien français, c'est le petit d'un animal. Et puis petit à petit, comme l'animal le plus couru, le plus connu, le plus célèbre, c'est le cheval, c'est devenu le petit du cheval, d'où le poulain. Mais le poulain, au départ, ce n'était pas forcément du cheval. Extension de sens. Alors là, l'exemple est classique. L'épicier aujourd'hui qui vendra des bouteilles de butagaz et peut-être des cartes postales et du papier à lettres, on est loin des épices. Il y a eu une extension de sens extraordinaire. Tout comme, je ne sais pas, la pommade, c'était fait avec de la pomme. Et justement, en écrasant de la pomme, on pouvait mettre beaucoup de produits dedans pour la peau, etc. Et donc, de la pomme, c'est passé avec une extension de sens à toutes sortes de produits, où il n'y a plus de pommes du tout, d'ailleurs. Donc, et on pourrait même trouver aujourd'hui vendre des pommades à la pomme, ce qui serait amusant. Alors, il y a l'affaiblissement de sens. L'affaiblissement de sens, c'est par exemple charmer quelqu'un. Bon, quand c'était dit au XVIIe, c'était mettre sous le charme. Et dans le même sens que le charmeur de serpent. Donc là, on était vraiment dans un sens très fort et qui, petit à petit, s'y atténuait. Étonné au Moyen-Âge, c'était être frappé par le tonnerre. Dans étonné, il y a le tonnerre. Et puis bon, c'est devenu finalement être un petit peu surpris. Ravir. Dans le langage religieux, c'était emporté au ciel. Bon, alors maintenant, alors que quand on disait « je suis ravi », ça voulait dire « je suis pris comme si j'étais emporté au ciel ». Bon, aujourd'hui, on dit « enchanté »,« ravi », bon, ça perd évidemment un petit peu de cette force. Et puis l'autre phénomène, c'est la contamination. Alors la contamination, c'est l'action d'un mot, comme farfelu et farfadé par exemple, d'un mot sur un autre mot, par un rapprochement, et rapprochement possible souvent par la prononciation ou la construction. « Fruste », d'abord, avait le sens de « rusé ». Et puis c'est sous l'influence de « rustre » que ça a pris le sens de sans finesse et sans politesse. Donc on a comme ça des mots qui ont donc été contaminés. On voit bien qu'émérite a été contaminé par mérite. Émérite, c'est celui qui avait fini sa carrière dans une fonction et qui jouissait des honneurs de son titre. Ça le reste encore, on parle d'un professeur émérite. Mais on dit maintenant de quelqu'un aussi qu'il est émérite, avec parfois d'autres connotations. Les mots de tous les jours, quand on y réfléchit, viande. Quand Rabelais disait « poire, est viande », puis il avait un adjectif, je ne sais plus lequel, parce que viande, c'est la vie. C'était quelque chose qui nous fait vivre, donc des vivres, vie, et tout était viande. Puis ça s'est restréci, évidemment, la viande du boucher. Le boucher lui-même étant d'ailleurs aussi quelqu'un qui vendait au départ de la viande de bouc, et puis ça s'est élargi. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on pourrait acheter du bouc chez le boucher. Alors là, c'est l'inverse, c'est extension de sens.
Est-ce qu'on voit à travers les mots la vie de notre temps ?
Oui. Alors, il est évident que tout à l'heure, il y a un emprunt que je n'ai pas oublié, mais je sais maintenant qu'il faut le faire. Il y a aussi une langue qui nous a apporté extraordinairement, c'est la langue arabe. La langue arabe, au moment de la conquête arabe, et notamment pour l'Espagne, et donc aux alentours du 8e siècle, et puis après 9e et 10e siècle, l'influence dans la France, a eu une influence colossale sur notre langue pour tout ce qui était savant. Les mathématiques leur doivent énormément, arithmétique, algèbre. Et donc, chaque fois que j'évoque la langue arabe, les étudiants, mes amis, sont étonnés de voir le nombre de mots qu'on leur doit et qui sont extrêmement importants, qui apportent, disons, à notre, je ne sais pas, alors il y a les mots comme orange, etc., mais beaucoup de mots savants, zénith, chiffre, zéro, c'est une population, une civilisation qui nous dominait complètement intellectuellement, culturellement, donc au 8e et 9e siècle. Et puis après, il y a eu la conquête. Alors c'est pour répondre à votre question maintenant, mais il y a eu la conquête d'Algérie, avec des excès, on le sait. Et là, c'est d'autres mots qui sont venus. Le bled, les mots des soldats, un baroud d'honneur, le kawa et d'autres mots de ce type, qui sont donc d'une autre nature et qui sont marqués. D'ailleurs, kawa se dit plus beaucoup. C'était les soldats qui revenaient d'Algérie qui le disaient. Puis après, il y a les mots comme... teenager, les mots anglais qui nous sont arrivés, tenter plus, t-shirt, etc. Et puis il y a les sigles après, c'est typique les sigles, il y en a eu très peu autrefois, il y en avait bien avec INRI, c'est un signe pour Jésus-Christ qu'on voit indiqué sur les croix, mais à part ça, il y en a quand même assez peu dans la langue, mais au XXe siècle, on est même obligé de faire des dictionnaires de sigles, donc si vous voulez, SDF en est un, mais le CAPES, CAPESien, RMI qui donnait RMI, CGT qui donnait CGTiste, l'ONU, l'ONU avec des problèmes de prononciation, RATP, et qui, à brûle-pourpoint, peut vous dire ce qu'est le RER, par exemple, Réseau Express Régional, on oublie même. Et puis même des sigles qui sont entrés dans la langue au point qu'on ne se souvient même plus que c'est des sigles. Une Jeep, c'est GP, General Purpose, c'est-à-dire une voiture d'objectif général. Radar, c'est Radio and Detecting Ranging, je crois, et c'était un sigle aussi, c'est devenu un mot. Donc tout ça, ça marque. La langue. Alors aujourd'hui, on la voit marquée par la grammaire aussi, qui est parfois un peu en souffrance. Puis il y a l'argot, effectivement, qui a toujours existé, et, qui ne manque pas de charme. Ça, c'est une certitude.
La langue française qui vit avec son temps, et nous vous remercions d'avoir pris un peu du vôtre pour venir nous en parler et nous faire part de son évolution, de sa structuration pendant tous ces siècles. Je rappelle que vous tenez une chronique ici à Canal Academy sur les mots, que vous êtes le spécialiste en France de l'histoire de la langue et nous vous remercions encore d'être venu dans cette émission. Bonne écoute sur Canal Academy.